Donc, c'est le moment de la chronique sur les frais de scolarité tels qu'avancés ultérieurement par Gabriel Nadeau-Dubois. Donc, oui, on a un problème à ce qu'ils nous disent les gouvernements et les recteurs des universités que les universités du Québec seraient sous-financées. En fait, ça empêcherait d'offrir une éducation de qualité. Par conséquent, il faudrait augmenter les frais de scolarité sous le prétexte que de toute manière, l'étudiant gagnera un meilleur salaire. Donc, ça sera un investissement pour sa part dans le futur, pour s'endetter. Donc, la hausse prévue, telle que mentionnée, est de 3 793 par année pour des études universitaires, soit une augmentation de 75%, ce qui est énorme. En 2017, on prévoit qu'un baccalauréat pour 3 ans coûterait 14 000 $, et ce, sans même que les salaires des étudiants augmentent proportionnellement à cette hausse. Donc, pour répondre aux différents arguments, en fait, l'idée de la chronique aujourd'hui, c'est de en fait, détruire les arguments qui nous sont présentés par les masses médias, les recteurs d'université, le gouvernement. On reçoit Éric Martin, doctorant en sciences politiques à l'Université d'Ottawa, politicologue et journaliste de formation, dont ses champs d'intérêt, la pensée dialectique, le marxisme occidental, la théorie critique de la postmodernité, l'anticapitalisme, la critique de l'idéologie néolibérale. Donc, bonjour Éric Martin.
Bonjour, bonjour.
Ça va bien?
Oui, malgré les circonstances.
Oui, évidemment. Donc, comment est-ce que ça va fonctionner? Je vais te présenter 8 arguments qu'on entend souvent, un peu démagogues. Donc, je voulais savoir si tu pouvais me répondre, qu'est-ce que tu en penses?
Bien sûr.
Donc, premièrement, on entend souvent dire que les universités sont très lourdement sous-financées. Pour pallier au manque d'argent, il faudrait que les étudiants fassent leur part. Qu'est-ce que tu répondrais à ça?
C'est sûr que là, pour justifier la hausse des frais, il fallait avoir une justification. Les gens n'auraient pas accepté de payer plus si on leur avait pas présenté ça comme étant absolument nécessaire, obligatoire, fatal. Hein. Donc, il fallait un prétexte. Ce prétexte, on dit que c'est le manque d'argent dans les universités. Et le problème, c'est qu'on calcule ce prétendu sous-financement non pas sur la base des besoins des universités. On fait plutôt une comparaison à visée adaptative avec l'Ontario. On regarde ce que l'Ontario a comme ressources et on fait une soustraction puis on dit, ben, on aimerait bien en avoir autant qu'eux autres. Comment ont-ils obtenu tout cet argent en montant les frais? Donc, faisons la même chose. Hein, donc, c'est profondément conformiste. Et on fait le calcul en calculant seulement les fonds de fonctionnement des universités. Donc, on regarde pas les autres fonds que l'université a à sa disposition. Or, il y a un fonds qui s'appelle les fonds de recherche et dans les universités, ces fonds-là augmentent énormément depuis plusieurs années. Hein, au Québec, ça a dépassé le cap du milliard depuis 10 ans. Donc, on dit, il manque 300 millions d'un certain côté qu'on va aller chercher chez les étudiants et étudiantes, mais de l'autre côté, il y a 1 milliard en fonds de recherche et ça, on n'en parle jamais. Hein? Parce que il y a un intérêt du côté des gouvernements. Hein? C'est l'État, c'est le gouvernement activement qui travaille à déplacer l'argent qu'il y a dans l'université, à le détourner de l'enseignement et à le diriger vers la recherche commanditée. Pourquoi les gouvernements font ça? Eh bien, parce qu'il y a une chose qui s'appelle l'OCDE, l'Organisation de coopération et développement économique, qui, depuis quelques années, pousse très fort sur les gouvernements pour qu'ils commercialisent ou privatisent, marchandisent l'éducation, et en fasse, en fait, un instrument de développement économique. Comment on va faire ça? C'est mettre les universités au service des entreprises pour faire de la recherche-développement de brevets. Hein? Donc ça coûte très cher, parce que la recherche-développement de nouveaux brevets, c'est des choses, des dépenses très coûteuses. Donc, on détourne de plus en plus d'argent vers ça, et pendant ce temps-là, ben, les budgets d'enseignement deviennent de plus en plus réduits, et les recteurs disent, ben, on n'a plus d'argent pour payer l'enseignement, donc on va aller chercher ces étudiants et étudiantes. Alors, il n'y a pas un sous-financement, il y a un mal-financement, il y a une sorte de détournement de fonds qui se fait, parce qu'on demande à l'université d'occuper un nouveau rôle dans la société, une nouvelle fonction sociale, qui est celle de devenir une usine à diplôme, de formation de main-d'œuvre d'un côté, puis de l'autre côté, une usine à brevets. Puis ces deux fonctions-là, ben, ça grève beaucoup de ressources qui, auparavant, auraient pu être dédiées à l'enseignement. Hein? Donc, là, le problème ici, c'est pas il faudrait mettre plus d'argent ou moins d'argent, c'est pas ça. Le problème, c'est à quoi ça sert une université. Et pour la CREPUC, pour les recteurs, il semble acquis que c'est la vision de l'OCDE qui doit prévaloir, c'est-à-dire que l'université, c'est essentiellement un lieu qui sert à relancer ou à stimuler le développement de l'économie. Et ça, c'est radicalement nouveau. Le langage dont vous parliez tantôt, là, de l'investissement, c'est le même langage. Hein, on parle de l'éducation comme d'un bien marchand. pour l'individu comme un investissement, pour les compagnies comme une marchandise avec laquelle faire de l'argent. Alors, c'est un langage qui est complètement nouveau dans le monde de l'éducation depuis quelques années, impulsé par l'OCDE, et qui change complètement la relation. Or, c'est pas vrai que les étudiants, au bout, ils auront plus d'emplois et de salaires. On pourrait peut-être en parler tantôt. Donc, pour répondre, disons, rapidement à la question, c'est de dire, ben, le problème, c'est pas qu'on manque d'argent ou qu'on est sous-financé. Le problème, c'est qu'on a ouvert les vannes pour financer de la recherche subventionnée commerciale à l'université et que cette bête-là est affamée et que plus on va mettre de l'argent dans l'université, plus il y aura un déplacement des fonds, un détournement des fonds vers cette recherche subventionnée. Et c'est ça qu'il faut critiquer.
Oui. Toujours dans la même logique, en fait, on entend souvent aussi dire que le sous-financement universitaire menacerait la qualité de l'éducation puis la valeur du diplôme.
Oui. Ben, ça, je pense que tout ce langage de la qualité, il est très trompeur. On donne l'impression aux gens que s'ils n'acceptent pas les hausses des frais, leurs diplômes vont valoir moins. Alors qu'en fait, c'est tout à fait l'inverse. C'est assez pernicieux parce que quand on commence à parler de valeur des diplômes, on ne parle pas ici de la valeur scientifique, comme quoi le cursus d'un programme serait approuvé par telle communauté d'intellectuels ou de scientifiques ou à l'aune de tel cursus important ou de l'histoire des idées ou de la tradition de l'ingénierie ou que sais-je. C'est pas ça le critère. Le critère de valeur, ben, c'est bien sûr la valeur économique et principalement la valeur financière. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, on demande à l'université de faire ses preuves. Et faire ses preuves, ça veut dire quoi? C'est prouver qu'elle est capable d'avoir des effets positifs sur la croissance de l'économie et l'accumulation de la valeur. Et comment elle fait ça? Ben, c'est que la nouvelle façon de faire de l'argent aujourd'hui, hein, dans l'économie financière de la bourse, c'est ce qu'on appelle des petites start-ups. C'est des compagnies qui vont commencer, bon, à l'ombre de l'université ou qui vont démarrer au Québec, là, dans des parcs pharmaceutiques ou autres. Ces petites start-ups essaient d'attirer ce qu'on appelle du venture capital. C'est du capital d'investissement ou des investisseurs étrangers, hein, des fonds très volatiles. Et on va essayer d'attirer ces fonds-là sur des brevets et spéculer en bourse, hein, pour que ça fonctionne. Alors, développer tout ça, ça coûte très cher, donc on essaie de décharger les dépenses de production de la recherche exploratoire et des brevets, de faire payer ça par des fonds publics. Donc, on sous-traite à l'université cette recherche qui nous permet de développer les brevets. Ah, donc, la qualité d'un diplôme, maintenant, ou la qualité d'une formation se mesurait à sa capacité d'avoir une influence positive sur la production de brevets sur l'économie. Et à l'inverse, ce qui devrait décider de à quoi on consacre des fonds dans l'université, ben c'est le marché de la bourse qui dit ben ça c'est profitable donc on le finance et ça c'est pas profitable donc on le finance pas. On voit ici qu'il y a un très grand lien entre la prétendue valeur d'une formation ou d'un programme universitaire et l'économie financière comme ou le marché financier comme lieu qui prend les décisions et qui est celui qui décide où on va allouer les ressources. Mmh. Alors, il y a un grand déplacement ici parce que ce n'est plus, disons, le gouvernement ou l'État qui sanctionne un diplôme ou qui décide où on va mettre les fonds en disant c'est une priorité pour le Québec de financer, par exemple, je sais pas, l'agronomie ou tel type d'ingénierie. C'est réputé être la bourse elle-même, le marché qui va décider de où on doit mettre les fonds et de ce qui est pertinent ou non. Et donc, la qualité des diplômes, ben, à la remorque de ça, seront de qualité les diplômes qui vont permettre d'être employables dans ce type de compagnie ou dans ce type d'environnement économique. Ça, c'est jugé pertinent. Puis les autres diplômes qui seront pas de qualité, ben, ce seront ceux qui n'ont pas d'assurance de générer des hauts flux de revenus dans le futur. Alors, on voit bien que comme critère de jugement pour ce qui est un diplôme, c'est absolument étranger à ce qu'a été historiquement le critère de jugement pour une pensée scientifique ou intellectuelle. Et par ailleurs, en terminant, il faut dire que tout ça, c'est faux parce que au bout de la ligne, on promet aux gens d'avoir des plus hauts salaires et des emplois assurés. Et ça, c'est pas gagné parce que la prétendue économie financière, on sait qu'elle est très, très instable. On sait qu'actuellement, le taux de chômage est très élevé chez les jeunes. C'est le plus élevé de l'histoire, selon le Bureau du travail de l'ONU. Donc, il est pas certain que les gros salaires soient au rendez-vous au bout. Hein. Ce qui risque plus d'arriver, c'est un très haut niveau d'endettement, comme on l'a vu au Canada anglais et en Angleterre. Donc, s'il y a un peu un mirage dans ça, on dit aux gens, acceptez que la pertinence ou la qualité de votre diplôme soit déterminée par sa valeur sur le marché, puis en retour, ben vous aurez un meilleur travail puis un meilleur salaire. Mais ce qui risque plus d'arriver, au fond, c'est des grosses dettes et une précarité, une insécurité croissante. Ce matin même, on apprenait de la part du Collège des psychiatres royal de la Grande-Bretagne que les gens là-bas ont de plus en plus de problèmes de dépression et d'anxiété parce que leur condition est de plus en plus précaire. Alors là, il y a un mirage à dénoncer ici, non?
Absolument. Aussi, on entend souvent dire que la hausse des frais de scolarité sera compensée par le régime d'aide financière tel qu'il a été mentionné par M. Bachand lorsqu'il a présenté son budget 2011. Qu'est-ce que tu en penses?
Mais encore
peut-être
une fois,
aussi expliquer qu'est-ce que le régime d'aide financière, en quoi est-ce que ça consiste et comment est-ce que ça peut aider les étudiants et les étudiantes.
Mais écoutez, moi, le régime d'aide financière, j'en suis très critique, hein, parce qu'on se souviendra qu'au Québec, dans les programmes des grands partis politiques, même le Parti libéral dans les années 60, le programme et même la commission parent, le projet, c'était la gratuité scolaire, donc. L'absence de frais de scolarité, c'était le programme pour à peu près tous les partis à l'époque. Ça n'a jamais été réalisé, puis à la place, on a mis un système d'aide financière qui est en fait le plus souvent un système d'endettement. Hein? Donc, c'est une mesure, disons, palliative, tout au plus, un pis-aller, par lequel on a essayé d'éviter d'avoir affaire à la gratuité scolaire. Hein? Donc, disons que l'aide financière, d'emblée, c'est pas une panacée, hein? C'est un truc qu'on a mis en place pour éviter de faire la gratuité scolaire. Donc, ça relativise un peu la pertinence de cette chose-là. Ensuite, il faut expliquer que l'aide financière, le gouvernement a promis de la bonifier après la hausse des frais qui vient, mais seulement pour les gens qui ont déjà des bourses. Hein, ça veut dire que pour à peu près 80% des personnes, ça n'aura pas d'impact pour eux et elles. Ces gens-là vont devoir avoir des prêts additionnels. Ça veut dire s'endetter davantage. Actuellement, la dette moyenne au Québec, c'est 15 000 $. On sait qu'en Ontario, c'est 25 000 et qu'en Nouvelle-Écosse, c'est 30 000 $. Hein, on sait que actuellement, en Angleterre, les frais de scolarité ont atteint 9 000 livres sterling, c'est-à-dire 15 000 $ par année. Il y a des universités en Écosse où ça coûte 60 000 $ faire un baccalauréat. Alors, on voit dans quelle direction, dans les pays anglo-saxons, on se dirige. C'est-à-dire une éducation qui est de plus en plus financée par les individus et par les fonds privés. Donc, ça veut dire qu'elle est privatisée dans son mode de financement et que les gens payent en s'endettant à crédit. Hein? Donc, les gens qui viennent de milieux peu nantis, là, ces gens-là ont un phénomène qu'on appelle le « debt aversion ». Ça veut dire que ces gens-là ont peur de l'endettement. Ils ont une aversion pour l'endettement. Quand vous êtes pauvre, vous venez d'un quartier ouvrier, par exemple, on vous propose de vous endetter de 50, 100 000 $. Mais vous n'allez pas penser que c'est une mince chose. Vous allez peut-être penser à deux fois et ça va. Et ça prouve, c'est prouvé d'ailleurs déjà en Angleterre. La London School of Economics a publié une étude il y a peut-être deux semaines de ça qui dit qu'on va avoir une baisse de fréquentation l'an prochain de 5% chez les filles et de 7% chez les garçons parce que les frais de scolarité sont rendus trop élevés. Donc là, on est en train, et l'OCDE reconnaît ça elle-même aussi, de repousser des gens de l'université parce qu'on leur propose de s'endetter de manière trop élevée. Hein? Et c'est pas étranger, quand on lit les documents de l'OCDE aussi, au projet de commercialiser l'ensemble de l'éducation à l'échelle mondiale, c'est-à-dire de la privatiser. Parce que c'est l'objectif de l'OCDE de créer un marché mondial des fournisseurs privés d'éducation, donc de casser les systèmes nationaux subventionnés d'éducation. Et eux, ils sont tout à fait en faveur d'une aide financière bonifiée ou même de programmes de remboursement proportionnel aux revenus, parce que ça va de pair avec une privatisation ou comme on le dit dans le langage, chez Milton Friedman, dans le langage néolibéral, ce qu'on appelle la dénationalisation de l'éducation. Ça veut dire l'éducation n'est plus quelque chose qui est subventionné par l'État, qui est un bien public ou un service public, qui transmet un bien commun qui s'appelle la connaissance, mais c'est un fournisseur privé, hein, c'est un marché privé dans lequel des clients viennent et, moyennant un endettement très élevé, peuvent se procurer un service qu'ils remboursent ensuite comme une hypothèque sur plusieurs années. Donc, le régime d'aide financière, c'est loin de faire partie de la solution. Ça fait partie du problème à travers lequel on est capable de plus en plus d'individualiser le financement de l'éducation et de privatiser l'institution. Et j'ajoute que c'est pas seulement les sources de financement qu'on va privatiser dans ce cadre-là, mais c'est aussi la mission même des institutions. Parce que plus elles deviennent dépendantes des fonds individuels et des fonds des compagnies, plus elles deviennent soumises à des pressions clientélistes à la fois des individus et des corporations pour leur dire, ben, vous devez produire des contenus qui vont être rentables pour moi comme investisseur, client, étudiant et pour moi comme employeur qui vous finance. Donc, il y a quelque chose d'extrêmement pervers dans ça parce qu'on est en train de soumettre l'université au pouvoir de l'argent et de la corrompre assez irrémédiablement, elle et sa mission classique qui est de transmettre la connaissance.
Absolument. Et finalement, je voulais savoir, on entend souvent dire aussi que le gel des frais de scolarité et la gratuité scolaire sont des mesures irréalistes et potentiellement injustes. En fait, on tend à vouloir faire en sorte que ça reste une fiction sur la gratuité scolaire parce qu'on entend surtout les groupes un peu plus à gauche comme l'AC par exemple qui va revendiquer ça. Je sais pas ce que t'en penses.
Ben moi, je suis bien sûr depuis assez longtemps en faveur de ça. Parce que c'est la seule façon d'assurer l'accès universel aux services. Ça, c'est important pour l'accès des gens, pour tout le monde, pour que tout le monde, sans égard à sa classe sociale d'origine ou à l'épaisseur de son portefeuille, puisse avoir accès. Mais, de manière peut-être plus importante encore, parce que c'est la seule façon d'empêcher que le contenu de l'éducation et que son rôle dans la société devienne un rôle commercial et marchand.
Mais est-ce que c'est réaliste en soi? Est-ce qu'on pourrait y arriver?
Bien sûr, je veux dire, il y a nombre de pays qui pratiquent déjà ce genre de mesures sociales qui s'appelle la gratuité scolaire. Ça coûterait à peu près 700 millions de faire ça au Québec. Et on a fréquemment, au niveau de l'État, des mesures. Bon, par exemple, quand on a réduit les paliers d'impôts ou quand on a enlevé la taxe sur le capital pour les entreprises, notamment les banques, ben, les gouvernements se sont privés à chaque fois de 950, 1 milliard de dollars, etc. Donc, il y a plusieurs mesures qui coûtent aussi cher ou plus cher au gouvernement et qui sont faites régulièrement, qui coûteraient pas plus cher que la gratuité scolaire. Donc, techniquement, autrement dit, du point de vue des ressources, c'est pas du tout impossible. C'est relativement assez facile de faire ça. Alors, évidemment, on va se demander, mais pourquoi est-ce que les gouvernements ne font pas ça? Mais là, c'est parce qu'il y a une autre volonté politique ici, là.
En fait, c'est une question de choix de société.
Oui, c'est une question de choix de société, tout à fait. Mais c'est que là, il y a ici une forme autoritaire. Les gouvernements... dans le monde entier, sous la pression notamment de la Banque mondiale, de l'OCDE et d'autres institutions internationales capitalistes, sont en train de dire que le rôle de l'éducation, c'est d'être branché sur le développement, la croissance de la valeur financière, et que pour faire ça, ben il faut c'est par la force qu'on le fait. Hein. C'est pas en convainquant les gens que c'est la meilleure chose à faire. C'est en disant, on n'a pas le choix, il faut y aller, il y a pas d'autre alternative. Donc c'est par la force. On s'adresse pas à la rationalité des gens, mais bien en leur faisant peur. On gouverne par la peur. On dit aux gens, il y a pas d'autre choix. De détruire la fonction classique et traditionnelle de l'université, détruire l'accès universel et remplacer ça par une logique commerciale privatisée dans ses modes de financement et dans ses finalités sociales. Merci. Ça, c'est extrêmement agressif et ça représente pour les gens une grave dépossession pour toutes les populations à l'échelle du monde qui subissent ça. Regardez au Chili présentement, ça fait plus de 2 mois qu'il y a une grève générale avec les étudiants et étudiantes, les syndiqués, où les gens se battent pour refuser de se faire arracher, ce qui a été somme toute un gain social important pour les classes ouvrières. Donc là, ici, là, la gratuité scolaire, c'est pas une utopie, c'est même le seul choix qui reste aux gens pour éviter que l'éducation tombe aux mains d'une certaine élite commerciale, économique et de certains objectifs très particuliers qui sont pas ceux qui vont dans l'intérêt général.
Merci beaucoup, Éric Martin.
C'est un grand plaisir, on se rappelle n'importe quand.
Merci Éric de l'IRIS, en fait. Merci d'avoir été avec nous